Un trajet sur l'autoroute n'est pas forcément linéaire d'un point A à un point B. Dans Chemin de Traverse, je vous propose d'emprunter une sortie et de partir à la découverte d'une maison d'écrivain. Pour ce nouveau voyage, direction la Touraine, sur les traces d'un génie de la Renaissance. Chemin de Traverse épisode 11 à la Devinière, la demeure de François Rabelais. C'est assez difficile à imaginer quand on arrive sur les lieux, mais cette charmante maison d'aspect plutôt modeste a été, il y a 500 ans, le théâtre d'un gigantesque champ de bataille. Un champ de bataille imaginaire, certes, mais c'est bien ici, dans ce paysage du vignoble du Val-de-Loire, que François Rabelais a planté le décor de sa célèbre guerre picrocolline. Nous sommes à la Devinière, la maison natale du père de Gargantua, située à Seuilly, petit village à une cinquantaine de kilomètres de Tours. On y accède par l'autoroute A85, sortie numéro 9 Chinon, Azay-le-Rideau. C'est une belle journée de printemps, et pour découvrir la substantifique moelle de ce lieu, j'ai rendez-vous avec Alain Lecomte, le responsable du musée Rabelais, la Devinière. Alors ici, le spectacle commence avant d'arriver à la Devinière. C'est vraiment magnifique, on a une vue splendide sur ce paysage de Seuilly. J'emprunte un petit sentier et de chaque côté de ce sentier, il y a des magnifiques fleurs jaunes, des boutons d'or. En plein cœur de printemps, c'est vraiment un très très joli lieu. Et je vais retrouver Alain Lecomte. Bonjour Alain Lecomte.
Bonjour Vincent.
Est-ce que je peux vous appeler Seigneur de la Devinière ?
Je ne sais pas si on peut appeler Seigneur de la Devinière. Je pense que à la Devinière, il n'y a qu'un seigneur, c'est Rabelais. Et je dirais qu'il copartage, c'est un coprince, puisqu'il y a en même temps Gargantua. Et donc ces deux personnages occupent largement la maison. Modestement, j'essaye en tout cas de faire que cette maison puisse aujourd'hui avoir encore un intérêt pour les visiteurs. C'est une petite maison des champs, hein, comme vous la voyez aujourd'hui, sous le soleil, avec un logis bourgeois du XVe siècle. Un pigeonnier qui date du 15e et du 16e siècle, et puis les bâtiments, les maisons, les petites maisons qui entourent ce logis, avec la maison du métayer, la maison du vigneron, la grange à foin qui nous sert d'accueil aujourd'hui. Un lieu assez sobre, proche de Chinon. Donc Antoine Rabelais, le père de François, était avocat royal à Chinon. Il possédait une maison principale, on va dire, dans la ville de Chinon, rue de la Lamproie. Il possédait d'autres propriétés, dont la Devinière, qui était la plus proche maison de Chinon et qui servait vraisemblablement de maison d'accueil pour les naissances de la famille. Donc nous parlons souvent de maternité des champs pour cette maison de la Devinière. Et elle a, je dirais, une caractéristique particulière, c'est que cette maison prend une place très importante dans le roman Gargantua, puisqu'il va faire de ce logis, le château de Grand Gousier, père de Gargantua, et il va faire de cet environnement, de ce paysage, le théâtre des guerres picrocollines, donc l'affrontement entre Grand Gousier, Gargantua et Picrocole, seigneur de Lernay.
Alors, ce qui est assez frappant, c'est que tout ici est petit, charmant, et dans l'œuvre de Rabelais, prend des proportions importantes, mais on va voir ça plus tard, vous n'allez pas tout me dévoiler. On commence la visite ?
Très bien, allons-y.
Première étape, la maison du métayer, une petite demeure qui devait abriter la partie domestique du logis, tout comme la maison du vigneron qui se trouve juste en face. Cet espace est l'occasion de découvrir la vie de Rabelais et notamment ses premières années passées à la Devinière, à travers notamment des planches originales datant du XVIIe siècle.
Donc on parle de maison natale ou de maison d'enfance, c'est-à-dire que le registre ou l'acte de registre mentionnant la naissance de Rabelais ne nous est pas parvenu. Notamment les guerres de religion ont fait leur travail, je dirais, de dévastation. Et traditionnellement, cette maison est nommée à partir du XVIIe comme la maison de naissance, comme le lieu de naissance de Rabelais. Donc nous avons tenté ici de reconstituer l'équilibre entre la représentation de ce lieu et ce qu'il est dans sa réalité tangible. C'est toujours ça, une maison d'écrivain, c'est-à-dire que vous avez à la fois une maison faite d'encre et de papier, et puis en même temps, vous avez une maison réelle, tangible, qui contient des collections et dont on doit, je dirais, organiser au mieux le parcours pour la compréhension de l'auteur Donc là, nous avons la chance d'avoir encore une maison qui conserve son paysage d'interprétation. Et dans cette maison, nous essayons effectivement de placer les différents éléments de compréhension de l'auteur, parmi lesquels on peut parler notamment des protecteurs de Rabelais. C'est-à-dire que Rabelais va naître à la fin du XVe siècle dans ce territoire. Il va ensuite quitter le lieu pour aller chez les franciscains, donc à Angers, puis à Fontenay-le-Comte. Donc il est repéré pour sa qualité, je dirais, d'étudiant et de savant. Et puis il va aller très vite à Maizet, chez les bénédictins, sous la protection de Geoffroy d'Estissac, qui est l'abbé évêque de Maizet. Et en 1528, il quitte cette abbaye pour rejoindre Paris, où là il va rencontrer une jeune veuve et avoir deux enfants. Donc c'est un moine qui expérimente également le fait d'être père de famille, ce qui est assez original. Donc il aura deux enfants, François et Junie, qui seront reconnus plus tard par le pape grâce à l'intermédiaire de Jean du Bellay, qui est le grand protecteur de Rabelais, qui est l'oncle du poète Joachim du Bellay. Et on connaît moins Jean du Bellay, qui était un personnage très important sous le règne de François Ier. C'est un prélat éminent qui fait partie du conseil privé du roi, qui détient 7 évêchés, une vingtaine d'abbayes en commande, donc une richesse colossale, et qui est diplomate à la fois dans les États allemands, en Angleterre et en Italie. Et ce personnage va prendre Rabelais sous sa protection, et c'est lui qui va notamment introduire Rabelais auprès de François Ier, même si Rabelais n'est pas un courtisan, c'est pas un écrivain de cour, mais grâce à Du Bellay, il va être connu et lu pour François Ier et apprécié par le roi.
Direction maintenant le pigeonnier Grange. Avec ses 288 boulins, ses petites cavités permettant d'accueillir des pigeons, le bâtiment affichait à l'époque la richesse du lieu. Il permet aujourd'hui d'admirer Rabelais et son œuvre, mise en image grâce aux célèbres illustrations de Gustave Doré. Cette pièce est aussi l'occasion d'évoquer l'écrivain médecin. Passionné par le grec, fréquentant les humanistes, François Rabelais va aussi étudier la médecine. Ce visionnaire considère que nous sommes tous un peu malades et que nous cherchons, à travers les écrits et les livres, la possibilité de nous guérir. Alors on ne le sait peut-être pas, mais la richesse de Rabelais est qu'il est non seulement écrivain, mais aussi médecin. Un aspect très important à la fois dans son œuvre et dans sa démarche d'homme humaniste, en fait, pour l'époque.
Alors oui, sa qualité de médecin est à mettre en lien avec sa qualité d'écrivain. C'est-à-dire que l'une influence l'autre. C'est un moine, dans un premier temps, qui va se servir des connaissances disponibles dans le monastère. Et il va également être médecin, donc s'inscrire à la faculté de médecine de Montpellier, donc le 17 septembre 1530. Obtenir son grade de bachelier en 6 semaines, alors qu'il faut normalement 2 ans pour l'avoir. Et donc être remarqué là aussi pour ses pré-acquis dans l'art médical. Donc l'art médical implique bien sûr l'art du pronostic, donc il va être enseigné à l'astrologie, à l'astronomie également, donc l'enquête botanique, puisqu'il y a le renouvellement également des sciences pour la pharmacie, l'enquête anatomique, puisqu'il faut découvrir l'être dans toute sa complexité, donc il va faire des dissections, des anatomies. Et cette qualité de médecin va conditionner sa qualité d'écrivain. Il va pratiquer un art d'écriture qui s'apparente à la gélothérapie. En tout cas, c'est ce qu'il revendique, à savoir la thérapie par le rire. Donc il va choisir volontairement d'écrire des chroniques à rire et lancer en quelque sorte à travers ses prologues de véritables ordonnances à l'adresse de ses vérolés égoutteux très précieux, qui sont ses malades, dont il a la charge à Lyon. Et voyant l'état de décrépitude morale, autant que physique, il va penser que le bien-être psychologique, on ne disait pas comme ça, mais le bien-être de l'âme peut contribuer au mieux-être du corps.
Tout le monde en parle aujourd'hui, mais à l'époque ça devait être un truc
Alors effectivement, très mal vu. À l'époque c'est quelque chose. Alors Hippocrate avait déjà mis en place ce système de gélothérapie, de thérapie par le rire, mais il est vrai qu'au XVIe siècle c'est quelque chose qui est relativement peu connu, voire ridiculisé. Mmh. parce que on met le corps dans une forme d'évidence mécanique et on nie le rapport qu'il peut avoir avec l'esprit, avec l'âme ou avec le psyché. Donc là, on est vraiment dans une volonté d'unité que Rabelais met en évidence entre le corps et l'esprit, afin que cette unité puisse servir au bien-être intégral.
En 1532, François Rabelais écrit son premier roman, Pantagruel. Gargantua arrive 2 ans plus tard, en 1534. 2 ouvrages censurés et condamnés par les théologiens de la Sorbonne. Si Rabelais écrit l'histoire de son géant à Lyon, c'est bien sa maison d'enfance qui lui sert d'inspiration et de matrice pour compter les années d'apprentissage et les exploits guerriers de son héros. Depuis les vignes, plantées ici en 2004, il suffit d'admirer l'horizon pour se plonger dans le roman. Au loin, on aperçoit le château du Coudray-Montpensier que Gargantua offre à Gymnaste, son écuyer. C'est ici par ailleurs que le récit de Rabelais croise l'histoire, celle avec un grand H.
Alors les guerres picrocolines, c'est un affrontement alors à la fois burlesque, grotesque même, qui est contenu dans le roman Gargantua, et Rabelais va mettre en scène l'affrontement entre Grand Gousier et Picrocole, seigneur de Lernay. Il y a derrière ces personnages les figures de François Ier et de Charles Quint. C'est-à-dire qu'il va mettre par écrit l'affrontement géopolitique du moment et recréer dans la miniature de son paysage l'affrontement européen. Donc vous allez avoir un affrontement qui commence par une sombre histoire d'achat de foies et de refus de vente. Les foissiers de Lernay, passant près de la Devinière, sont interpellés par les bergers de Grand Gousier qui demandent à acheter la foisse parce que foisse et raisins frais sont viande céleste, comme écrit Rabelais. Et le refus de vente occasionne une bagarre. Cette bagarre génère une guerre monumentale. Picrocole part dans une colère noire et il va fondre véritablement sur le royaume de Grand Gousier. Et derrière cette crainte de l'encerclement se trouve la même crainte que François Ier peut avoir au moment où Charles Quint récupère la titulature impériale, c'est-à-dire que voilà, il est, je dirais, souverain à la fois de la Hollande, des États allemands, de l'Espagne, et l'affrontement majeur se fait sur la péninsule italienne. Et ces guerres d'Italie sont très marquantes pour le règne de François Ier. Et Rabelais est un auteur que l'on pourrait qualifier de gallican, c'est-à-dire d'un auteur patriote.
Et donc Rabelais imagine que cet affrontement s'est déroulé ici.
Et donc Rabelais imagine que cette guerre va se dérouler dans le périmètre qui lui est intime. Et donc il va faire en sorte que ce paysage d'enfance devienne le paysage de cet affrontement majeur et de la naissance également de son géant, puisqu'il le fait naître dans les prés de la Soleil, qui sont en contrebas de la Devinière. Donc vous avez à la fois un roman lié au lieu, et ce roman interpelle le paysage, et aujourd'hui ce paysage est en cours de classement, comme paysage remarquable.
En plus d'être un musée, la Devinière est aussi un lieu de spectacle. Le jour de ma visite, j'ai la chance d'assister aux préparatifs de « Rien ne va plus », une performance théâtrale autour des textes de Rabelais. Le chef d'orchestre de ce projet est un passionné de l'œuvre de l'écrivain, l'acteur et metteur en scène Didier Galas. Bonjour Didier.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à quelques-unes de mes questions dans le cadre de ce podcast. Pourquoi cet attachement à François Rabelais et à son œuvre ?
C'est ce langage incroyable. C'est vraiment, en fait, quand je l'ai découvert, je me souviens être au lycée, et c'était traduit dans les Lagardes et Michères qu'on avait à l'époque, là. Donc c'était une traduction en français contemporain. Donc c'était quand même sacrément édulcoré, parce que là, je trouve ça, c'est scandaleux, quoi. C'est comme si on faisait ça à Rimbaud, je pense qu'on s'élèverait en disant c'est inadmissible. Le massacre qu'on a fait, bon, le mot est un peu fort, mais en tout cas, le massacre, oui, qu'on a fait de l'œuvre de Rabelais, quoi. Du coup, quand même, néanmoins, en écoutant comme ça Rabelais qu'on lisait dans une classe de première, il y a toujours la promesse de quelque chose à venir. Il nous tient en haleine sur quelque chose. On sent que, en fait, finalement, j'ai toujours eu l'impression qu'un grand secret allait être révélé, quoi. Même si on le traduit, quoi. On a ça. On a la promesse d'une révélation, peut-être. Et comme il s'amuse avec ça, je pense que ce langage m'a toujours tenu en haleine. Et puis après, aussi, ça m'inspirait, ça me donnait envie de manger, en fait, quoi.
Ah oui.
Non, mais de manger à cause de la phrase elle-même, pas parce que il allait dire il y a énormément de plats et tout ça, quoi. C'était pas du tout dans une logique ou dans une psychologique. C'était vraiment complètement ce langage.
Et le style.
Le style, oui. Mmh. Il y avait le secret, disons, et l'idée de se rassasier, quoi, je pense.
Pour un comédien, ça doit être complètement jouissif si on reprend le vocabulaire dans l'excès des plaisirs de cet auteur. Ça doit être particulièrement jouissif d'interpréter ses textes.
Déjà, j'étais sorti du conservatoire avec un texte de Rabelais en langue originale. On m'avait dit d'ailleurs que c'était n'importe quoi de faire ça, mais j'avais dit, ben oui, peut-être. Mais chacun peut avoir son avis sur ça. Donc je veux dire que déjà j'étais dans cette langue qui me faisait un effet, moi je sais pas, peut-être comme une transe, disons quoi.
C'était quel texte ?
C'était l'inscription qui est mise sur la porte de l'abbaye de Thélème. Donc dans à la fin de Gargantua. Si n'entrez pas, vous hypocrites, matagots, bigots, des choses comme ça. Et il y avait cette magnifique fin qui est or de l'or, le métal. Hein. Or donné par don, ordonne par don. À s'il qui le donne et très bien gardonne, tout mortel prud'homme.
On a envie de vous écouter, du coup, nous lire du Rabelais. Qu'est-ce que vous avez choisi ?
Alors, je vais vous lire un petit extrait. C'est la description du corps humain, du corps de Carême Prenant, en l'occurrence. Donc, c'est la description de ce corps. La cervelle comme un couillon gauche. Les tympans comme un moulinet. La nuque comme un falot. Les nerfs comme un robinet. La luette comme une sarbatène. Le palais comme une moufle. La salive comme une navette. Les amygdales comme lunettes à un œil. Le gosier comme un panier vendangeré. L'estomac comme un baudrier. Le poumon comme une omus, le cœur comme une chasuble, le diaphragme comme un bonnet à la cocarde, le foie comme une besague, les artères comme une cape de billard, les veines comme un châssis, les boyaux comme un tramail, le fiel comme une doloire, l'intestin jeun comme un davier, l'intestin borgne comme un plastron, le côlon comme une brinde, le boyau culier comme un bourrabaquin monacal, les rognons comme une truelle, les vases spermatiques comme un gâteau feuilleté, la vessie comme un arc à jaler, les muscles comme un soufflet, les tendons comme un gant d'oiseau, les ligaments comme une escarcelle, les os comme casse-museau, la moelle comme un bissac, les cartilages comme une tortue de garrigue, l'urine comme un pape-figue, le sang bouillant comme nasard de multiplié, la géniture comme un sang de clou à latte, les esprits animaux comme grands coups de poing, les esprits vitaux comme longues chiquenaudes.
C'est sur ces mots de François Rabelais que se termine ce nouvel épisode de Chemin de Traverse. Merci à Alain Lecomte et à Didier Galas pour leur participation. Toutes les infos sur la Devinière sont à retrouver sur le site musée-rabelais.fr. Les autres épisodes de Chemin de Traverse sont disponibles sur le site de Vinci Autoroute, rubrique podcast, et sur les plateformes de téléchargement.